Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue à tous, c'est la belle histoire de France, chapitre par chapitre, et aujourd'hui la 4e République, chapitre 62, avec Franck Ferrand, Marc Menant, qui vont nous raconter au cours de cette émission le gouvernement provisoire de De Gaulle, la naissance de la 4e République, la naissance de la société de consommation, le portrait de Pierre Mendès France. On verra tout cela avec vous deux. Ravi de vous retrouver, messieurs. Bonjour, mon cher Marc.
Mais je vois. Je vous fais sourire. Il y a que ma vue, vous éclatez de rire.
Absolument.
Moi, je ne vous fais pas pleurer, j'espère.
Alors, pas du tout, mon cher Franck. D'ailleurs, j'ai appelé Marc Franck, Franck Marc. On ne sait plus où on
est. Mais
en
il
est.
Arrive très souvent que dans la rue, on m'appelle Marc Ferrand. Je pense que c'est à cause de cet énergumène.
En tout cas, ravi de vous retrouver. C'est parti, mon cher Franck. La dernière émission, nous avons vu que l'année 1943 a été l'année charnière
oui.
de la guerre, et c'est là que sont nées les institutions d'après-guerre.
Oui, en fait, on a compris, après tous les événements de novembre 1942, il y a le grand basculement, effectivement, de cette année 1943, et la France libre, le général de Gaulle et tous ceux qui l'entourent et le Conseil, oui. ont compris que la guerre était en train de basculer et qu'il fallait commencer à préparer l'après-guerre, oui. la libération, qui, évidemment, pour la population elle-même, n'est que joie et bonheur, en tout cas pour une très grande partie de la population, mais pour les institutions, est un grand danger. Qui va prendre le pouvoir ? Est-ce que ce sont les communistes qui ont beaucoup bénéficié de cette période de développement des maquis ? Il y a des maquis FTP un peu partout en France. Est-ce que ce sont les Américains ? Car on sait que les Américains ont prévu d'installer leurs institutions. Bref. Le général de Gaulle veut d'abord unifier la résistance, pas toute, il va unifier la plus grande partie de la résistance. Ce sera d'abord la mission de Jean Moulin, vous le savez, avec la constitution du Conseil national de résistance, le CNR. Dimension politique très importante, ce CNR, puisqu'il a tout un programme. Et ce programme, bien qu'il y ait dans le CNR des mouvements de résistance qui appartiennent à toutes les tendances politiques, il est évident que ce programme, il est fortement... dominé par une pensée, on va dire, socialiste au sens large, avec un État très fort, ce qu'on va appeler l'État-providence, avec toutes sortes d'institutions sociales dont on va avoir l'occasion de parler tout à l'heure. Et puis, à Alger, s'est installé ce qu'on appelle le CFLN, le Comité français de libération nationale, qui est là pour préparer les institutions de la libération. Et ce comité, il a été créé en juin 43, un an plus tard, le 3 juin 1944. Il est converti par le général de Gaulle, c'est une ordonnance d'Alger, il est converti en gouvernement provisoire de la République française. Ça y est, de nouveau, la France est censée avoir un gouvernement légal, républicain. Ce gouvernement, ce GPRF, il va être dirigé par le général de Gaulle, bien entendu. Alors, il s'installe à Paris le 31 août 1944, il se réunit pour la première fois le 2 septembre. Il y a une semaine qui est un peu une semaine passionnante d'ailleurs de cacophonie. Et puis, au bout d'une semaine, voilà ce GPRF que vous avez à l'écran. Le 9 septembre, on voit cette composition qui fait une large part aux instances sociales, encore une fois, avec Jules Jeanneney, avec Georges Bidault, qui était justement le président du CNR, avec Henri Freinet, bien sûr, avec un homme dont Marc nous parlera tout à l'heure, qui est Pierre Mendès France. L'homme fort de ce GPRF, celui qui gouverne la France au moment de cette libération et qui tient tête d'un côté aux communistes, de l'autre aux Américains, tout ça n'est pas si simple, c'est bien sûr le général de Gaulle. Le problème, c'est qu'à mesure que la paix s'installe, que le pays s'installe dans la paix, avec toutes les restrictions qu'on peut imaginer, oui. Là aussi on en dira peut-être un mot.
Avec un petit P.
À mesure que tout ça s'installe, on revient aux bonnes vieilles habitudes ou à ce que le général lui-même considère comme les mauvaises habitudes. Oui. En l'occurrence, le régime des partis. De Gaulle en a assez et il s'en va le 26 janvier 1946.
Je fous le camp, c'est pas moi qui le dis, c'est le général de Gaulle. Et c'est en effet ce qu'il déclare le 20 janvier 1946, mon cher Marc. Pourquoi quitte-t-il la tête de ce gouvernement provisoire ? Son départ est-il le symbole d'une France qui tourne finalement, définitivement, la page de la guerre ?
Imaginez-le,
On avait l'image, il y a deux secondes, on peut presque la remettre, on demande à Thomas de nous la réafficher. Et là, ce jour-là, il entre dans cette immense salle, il est debout.
C'est un dimanche matin, il faut dire.
C'est un dimanche matin, les ministres également. Et là, eh bien, il les saisit en disant « Je fous le camp !» Et il leur explique, mais alors vous imaginez, personne...
Mais pardon, le gouvernement Rousin, il avait combien, quel âge, combien de temps, combien
de temps, il était en 1944, ça fait deux ans.
Non, non, oui, mais en fait, il était au pouvoir vraiment depuis six mois.
Voilà, c'est ça.
Un an et six mois, 18 mois.
Incroyable. Et donc, voilà, pourquoi ouais. Alors, très rapidement, il leur dit... Mais il n'est pas possible de gouverner. On est à nouveau dans ces chiffonnailles, ces chiffonneries de parti. C'est à qui veut avoir le pouvoir. Lui, il souhaitait quoi? Il souhaitait déjà qu'il y ait deux assemblées. Une assemblée de députés, une assemblée du Sénat. Mmh. Mais du côté de la gauche, non, non, non. Une seule assemblée suffirait.
Comme à l'époque révolutionnaire.
Voilà. Mmh. Et surtout, donc ils veulent une constituante. Un président, mais au pouvoir extrêmement réduit, alors que de Gaulle, il dit « Mais cessons ces chamailleries, il nous faut être dans l'unité, la relance ne se peut se faire que si vraiment il y a un chef, et ce chef, ça serait moi, forcément. » Et personne n'ayant voulu l'écouter, il se rend compte qu'il ne pourrait pas tenir la place. Et là, c'est presque un coup de bluff, parce que devant les uns et les autres, il joue l'homme qui préfère se retirer plutôt que de devoir mal gérer la situation. Mais il se dit, dans sa tête, n'oublions pas la grande intelligence du général de Gaulle. C'est un homme de stratégie, c'est aussi un militaire. Il se dit, je m'en vais, ils vont bien venir me rechercher. Qu'est-ce qui peut étayer cela? Ben déjà, c'est qu'il ne repart pas tout de suite à Colombey, où sa maison est enfin en restauration et presque habitable, mais il se retire à quelques encablés de Paris, à Marly-le-Roi. Il est là, avec son épouse.
Comme on dit, en réserve de la République.
Excellent.
Ouais, ben, il est presque à côté du téléphone. Ils vont bien appeler. Eh bien, on n'appelle pas. Et là, ben, forcément, c'est le départ pour Colombey. Sur ce qui sera sa grande traversée du désert. Mais attention, le désert du général de Gaulle reste aussi une occupation du terrain, mais une occupation malicieuse. Il tire les ficelles à sa façon. Celui qui sera rapidement appelé à prendre sa place, même si ce n'est pas le président en tant que tel immédiatement, ça sera... notre main d'Est-France que nous évoquerons. Mais là, pour l'heure, eh bien, on a Vincent Auriol qui prend le pouvoir.
Alors lui, il est président de la République.
Et puis Ramadier, ensuite... qui est le président du Conseil. Il y a des ministres communistes qui sont là. Ça fait partie. C'est lui qui les avait imposés. Dans cette subtilité de se dire, c'est vrai qu'ils ont participé à la lutte, ils ont joué un rôle essentiel, et pour pouvoir les tenir... Eh bien, il faut qu'il participe à ce redressement de la France. Il faut que l'on montre qu'effectivement, on fait un corps, que l'on est tous dans la communion. Et le plus étonnant, c'est qu'il a pris dans son gouvernement Maurice Thorez. Et on pourrait considérer que Maurice Thorez, c'est le traître. C'est celui qui était là-bas, sous la protection de Staline, et qui n'a pas un passé des plus glorieux. Mais en revanche... Ben, il est, oui, l'homme de Staline, mais il est aussi le chef du parti communiste. Voilà l'installation de ce pouvoir. Ramadier, rapidement, s'apercevra qu'effectivement, la situation est plus que tendue, car dans les rues, c'est l'agitation. On est dans les restrictions. On manque de tout. Et la CGT... sera parmi les grandes agitatrices de la situation sociale. Et la CGT, bah c'est l'union avec le Parti communiste.
La CGT, elle travaille un peu sur ordre, il faut le dire. Ce qui s'est passé, c'est que à partir de 1947, nous avons deux changements radicaux. D'une part, ce sont des événements mondiaux extraordinaires. D'abord, l'instauration de ce qu'on va appeler la guerre froide. Hein. Rappelez-vous le discours de Churchill à Fulton. Cette guerre froide qui va faire qu'il y a deux blocs désormais. D'un côté, le bloc de ce qu'on appelle le monde libre avec les États-Unis. De l'autre, le bloc soviétique. Et que dans cet affrontement des blocs, les communistes n'ont plus leur place au gouvernement en France. Et puis, c'est le moment aussi où les Américains, voyant les grandes difficultés d'un certain nombre de pays d'Europe à sortir du marasme, vont déverser sur l'Europe leur fameux dollar. Hein, c'est
on
ce qu'on appelle le plan Marshall. Oui, mais donc, puisque Marc parle de
oui,
ça, je suis obligé
c'est la période,
de... On va revenir ensuite au général de Gaulle et à son départ, mais juste pour compléter ça, le plan Marshall fait qu'évidemment, par définition, il y a une allégeance aux États-Unis, donc pas question de garder des ministres au gouvernement. À partir du moment où Ramadier met les communistes dehors, vous doutez bien que le fer de lance du Parti communiste, qui à l'époque est le syndicat, la CGT, va semer partout le désordre. On crée des grèves, des mouvements sociaux, d'autant plus facilement que la population manque de tout et qu'on est effectivement encore, ne l'oubliez pas, dans le régime des restrictions, on a encore les tickets de rationnement. Hein.
Donc, jusqu'en 49.
Hein. Jusqu'en 49. Donc, évidemment, pour des raisons géopolitiques, on met les communistes dehors, et qui dit mettre les communistes dehors dit s'exposer à des grèves. Ce seront les fameuses grandes grèves de 47. Mais quand de Gaulle part, on n'en est pas encore là, bien entendu, en 46.
Hein. Non, mais et notons que les Américains vont créer l'OTAN, ça sera la tête de bélier pour pouvoir d'autant plus, je dirais, dominer l'Europe. Car dans leur esprit, il est important de créer une sorte de marché qui dynamise leur économie et qui passe par cette imposition de leur système de consommation. Et c'est là le paradoxe, c'est qu'en écartant De Gaulle, qui se méfiait des Américains, si De Gaulle était resté au pouvoir, il y aurait eu sans doute une distinction et pas une adhésion immédiate de la France à l'OTAN.
Ce qui est intéressant, c'est de voir, et on en avait parlé un peu hein, la dernière fois, que lorsqu'il y a eu toute cette résistance pendant à la fin de la Seconde Guerre mondiale, se naissait aussi cette volonté de gouvernance. Et finalement, elle n'a pas été si efficace que ça.
Mais bien sûr, c'est toute la question du GPRF, ça. Oui. C'est une question d'une importance.
Pour arriver forte. Jusqu'au départ du général
en
de
fait,
Gaulle.
On pourrait dire que c'est une question qui a des répercussions jusqu'à notre époque.
Voilà.
D'ailleurs, plus nous avançons dans l'histoire, disons les choses, plus nous entrons dans l'actualité, donc dans la politique. Moi, je suis de ceux qui pensent que pour bien parler d'histoire, il faut parler d'époques qui sont bien éteintes. Là, on peut dire que le feu continue de.
Et on rappelle que c'est l'avant-dernière émission, puisque la dernière émission, on avait dit qu'on faisait l'émission de la Gaulle à De Gaulle, et elle sera, la prochaine
Exactement.
Sera la dernière.
La dernière, le retour du général de Gaulle au pouvoir. Alors, pour essayer là d'expliquer ce qui s'est passé avec ce gouvernement provisoire, il a été une bénédiction incroyable pour la France, ça faut en être conscient, car je vous promets que si ça n'avait pas été le cas, les Américains étaient tout prêts à prendre les commandes. Ils avaient tout préparé. Marc nous disait la dernière fois qu'ils étaient allés jusqu'à imprimer une monnaie. Hein, vous voyez, on s'était allé loin. Bon. Et simultanément, il y avait partout ce parti communiste extrêmement puissant qui représentait largement plus d'un quart de la population électorale, c'est pas rien, et qui était prêt, lui, je ne sais pas aller jusqu'où, d'ailleurs personne ne le saura jamais, mais qui était prêt à aller loin en tout cas. Donc, ce gouvernement provisoire...
Entre les intentions et puis après rendre concret l'action, c'est beaucoup plus difficile. Mais cette empreinte communiste, elle se jauge sur cette influence du déclenchement et des grèves.
Et le général de Gaulle se dit, pour tenir entre le marteau et l'enclume, vous voyez bien, entre ces résistants, ces anciens résistants communistes et ce nouveau gouvernement de libération, puisqu'on était côté américain, nous évidemment, heureusement, on n'a pas été libérés par l'armée rouge, hein, me direz-vous. Et donc, pour tenir entre les deux, il fallait un pouvoir fort, indépendant et un exécutif fort. C'est ça la grande affaire du général de Gaulle. Pour lui, il y a vraiment deux grands travers qu'il avait tellement bien connus pendant cette Troisième République qui avait été celle de son enfance et de sa jeunesse. C'était d'abord le travers des partis. Il savait très bien que lorsque c'est l'Assemblée qui gouverne, eh bien en fait, on fait des magouilles et des cuisines à l'infini dans les couloirs du Parlement. Il connaissait ça par cœur, donc il voulait éviter ce régime des partis. Et puis d'autre part, c'était un pouvoir qui, n'ayant pas d'exécutif fort, ne savait pas trop où il allait. C'est ce qu'il explique ça dans un discours qu'il faut relire, qui est extraordinaire, qu'il va prononcer après son départ du pouvoir en janvier 1946, c'est le célèbre discours de Bayeux qui est à l'origine même, qui est au fondement même de ce qu'on appellera en 1958 la Ve République.
Et là, on va parler de la naissance de la Quatrième République, parce que janvier 1947, c'est Vincent Auriol, vous l'avez dit, qui devient président de la République, mais la naissance de la Quatrième République. Rappelons, mon cher Franck, c'est ce régime devenu célèbre pour son instabilité gouvernementale. 18 gouvernements de 46 à 58. Mais d'abord, comment est-elle née ?
Je vais d'abord vous faire une petite confidence. C'est que moi, je ne la déteste pas.
Il était temps après 62 émissions.
Ça, c'est un scoop.
Je ne la déteste pas, cette Quatrième République.
L'instabilité, qu'est-ce que vous...
Écoutez, d'abord, on avait retrouvé la paix. On avait retrouvé l'indépendance. On avait des débats qui étaient des débats d'une force considérable, notamment le grand débat qui va sous-tendre toute la politique de la Quatrième République, qui est celle de la CED, la Communauté Européenne de Défense. Est-ce qu'on fait l'Europe ? Et si l'on fait l'Europe, est-ce qu'on va jusqu'à lui confier le bouton atomique ? Pas encore, puisqu'on est aussi en train de chercher notre indépendance atomique qui arrivera, dont l'avènement se fera sous le général de Gaulle, mais dont toute la préparation a été faite pendant cette Quatrième République. Cette Quatrième République, évidemment, c'est la République du petit Percueil, de Ramadier dont on parlait, de Pleven. Ce ne sont pas des foudres de guerre, tous ces gens-là. Mais il y a une bonhomie, il y a une espèce de tranquillité, il y a un bon vivre des années 50. Quand vous regardez les épisodes de Maigret avec Bruno Kremer, vous voyez cette ambiance un peu particulière.
Les chapeaux de forme.
Et les chapeaux mous, les chapeaux mous. Ah oui. Avec les chapeaux mous, avec les tractions avant, enfin bon bref. Il y a quelque chose d'un peu sympathique dans tout ça. Et puis surtout, mais ça on va y venir dans un instant, il y a ce moment où l'on est en train de retrouver le goût de vivre et... On est en pleine reconstruction. Grâce au plan Marshall, on gagne de mieux en mieux sa vie. Les ménages acquièrent une forme de qualité de vie qu'ils n'avaient jamais connue jusqu'ici. Bref, tout n'est pas acheté. Mais c'est vrai que les institutions sont fragiles et ça, j'y viens.
Est-ce que je peux calmer votre enthousiasme ?
Allez-y, allez-y.
Non, parce qu'il y a un élan, mais il y a aussi une souffrance, car l'industrie ne se déploie pas dans... La sérénité la plus totale, les conditions du travailleur sont pénibles, parfois terribles, et les luttes ne cessent de se multiplier. Les grèves sont constantes.
Et puis il y a de la pauvreté dont parle le...
Voilà, la pauvreté.
Hiver 54, vous savez, avec l'abbé Pierre.
Voilà, c'est-à-dire que cet hiver 54, c'est bien de le rappeler, les conditions... météorologiques sont terrifiantes, on a la Seine qui gèle et les gens qui meurent dans les rues de Paris parce que beaucoup vivent dans des bidonvilles, ils n'ont pas d'abri et ces bidonvilles existeront jusqu'en 1970. Ils commenceront véritablement à disparaître en 1960, mais dans cette zone de 1945 à 1950, on a ce que l'on appelle les cités d'urgence, qui sont des lieux comme des lotissements montés de briquet dropped, plus ou moins bien établis, pour entasser la population.
Alors maintenant, j'en vois bien un peu le contexte, justement,
Les institutions, peut-être.
Mais justement, au niveau politique.
Alors, au niveau politique, je vous rappelle les grandes bases pour savoir comment est née cette étrange Quatrième République. Le général de Gaulle part en janvier 1946, ce qui veut dire quand même qu'au moment où il part, il n'y a plus de Troisième République du tout.
C'est ça.
Puisqu'il y a eu, vous savez... Je ne reviens pas sur toute la période de l'occupation, sur les grandes questions de la légitimité, de la légalité. On en a déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais le 21 octobre 1945, double référendum. D'une part, c'est la fin officielle de la Troisième République. Là, il n'est pas question d'y revenir. Et deuxièmement, une constituante qui va œuvrer au nouveau régime. C'est là que le général de Gaulle est à l'œuvre et qu'il veut un président fort avec un parlement qui soit un peu tenu, etc. Eh oui, mais c'est pas du tout ce vers quoi on va. Pourquoi ? Parce que si vous prenez le Parti communiste plus la SFIO, fin de 1945...
C'est donc l'ancêtre des
socialistes. La section française de l'Internationale ouvrière, ça veut dire les socialistes, en fait. Si vous les mettez ensemble, ils ont la majorité. Et à partir de ce moment-là, évidemment, les points de vue du général de Gaulle ne sont plus tellement écoutés. On va faire en mai 1946, quelques mois après le départ du général, on va faire en juin 1946... de nouvelles élections. Et là, on voit que la droite, d'un seul coup, remonte. Quand je dis la droite, attention, c'est un centre-droite très modéré. C'est ce qu'on appelle le MRP, bien
Mouvement
entendu.
Mouvement républicain populaire.
C'est ça, c'est des démocrates chrétiens à la française. Mm-hmm. Et puis, une droite indépendante qui ne peut que très peu dire son nom, parce qu'on a toujours l'idée de ce régime du maréchal Pétain qui fait qu'on n'ose pas trop s'affirmer de droite. Alors que si on regarde bien, le régime du maréchal Pétain, il a une inspiration qui est certes d'extrême droite, mais c'était un régime très difficile à définir politiquement. Peu importe, cette expérience de la guerre a profondément ravager la droite, si on peut dire. Donc la droite, elle se reconstruit un petit peu à partir de juin 46. En octobre 46, on fait un nouveau référendum. Parce qu'il y a eu un référendum au printemps, au mois de mai, avec une seule assemblée, justement, à la façon 93, si j'ose dire, avec un président de la République qui était quasiment inexistant, qui n'était vraiment là que pour, comme dira le général de Gaulle, et tout le monde se rappelle cette fameuse expression qui est devenue un pont aux ânes, pour inaugurer les chrysanthèmes. Eh bien donc, en mai 46, le peuple français à 53% a rejeté cette constitution. Donc on se remet au travail, la constituante crée de nouveaux comités, et en octobre, on propose un régime bicaméral, donc deux chambres. Ce qui s'appelait la Chambre des députés redevient l'Assemblée nationale et ce qui s'appelait le Sénat devient le Conseil de la République. Et donc, ce nouveau régime est un peu plus équilibré, le président de la République y trouve un peu plus sa place, surtout le président du Conseil devient le véritable fer de lance des institutions et là, les Français disent oui à 53%. C'est donc la naissance de la 4e République. Une 4e République qui très vite va tourner au régime d'assemblée. Mais ça, De Gaulle l'avait dit, mais il n'y avait pas moyen que ça se passe autrement. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez un gros bloc de socialistes. Vous avez des communistes qui peu à peu vont se marginaliser. Et vous avez à droite une espèce de marais, un centre droit, voilà, qui n'ose pas trop dire son nom. Bref, que va faire le Parti Socialiste? Que va faire la SFIO? Pour gouverner, elle est obligée de s'allier avec des centristes de tous ordres. C'est ce qu'on va appeler la troisième force. Sauf que cette troisième force, assez vite, à partir de juin 51, elle est débordée sur sa droite par un nouveau parti qui a été créé quelques temps plus tôt par le général de Gaulle, le Rassemblement du Peuple Français, le RPF, qui va remporter 22% des voix aux élections de juin 51. Et ça, c'est le prélude à ce qui va se passer à partir de la mi-52, dès mars 52. C'est le retour de la droite au pouvoir. Avec la question, je vous l'ai dit, de la CED, avec la grande question de l'Union française, n'oublions pas. On essaie de créer un Commonwealth à la française, sauf qu'il y a des gens comme Bourguiba en Tunisie, comme le sultan lui-même Mohamed V au Maroc, etc., qui ne sont pas d'accord. Très vite, on va se rendre compte que les institutions de la 4e République n'ont pas été trempées dans un acier assez ferme pour faire face à la tempête de la décolonisation. Il y a partout dans l'immense empire colonial français une volonté d'indépendance et il n'y a pas à Paris un pouvoir assez fort pour répondre à cette volonté et pour transformer ça de façon positive. On va se lancer dans des guerres de décolonisation et c'est ce qui aura finalement raison de cette 4e République qui négocie la fin de la guerre d'Indochine mais qui va buter sur la guerre d'Algérie.
On va parler justement dans la deuxième émission.
Un drame, la guerre d'Indochine.
Mais on en parlera dans la deuxième émission. Oh là là, je vous sens très pressé. Mais merci beaucoup pour ces précisions et de cette naissance mouvementée de la 4e République. Je rappelle, 18 gouvernements de 46 à 56. Oui. Dans la deuxième partie de cette émission, on parlera de la guerre d'Indochine. Vous nous direz pourquoi c'est important et pourquoi cette guerre d'Indochine a marqué la France. Dans la deuxième partie, on parlera également, on fera un portrait de Pierre Mendès-France. Très intéressant. Et puis, on parlera du plan Marshall et puis de cette naissance de la société de consommation. À tout de suite. Bienvenue à tous dans la deuxième partie de la 62e émission de La Belle Histoire de France. Je rappelle que c'est l'avant-dernière émission puisque nous faisons de la Gaule à De Gaulle et bientôt la fin de cette grande épopée de La Belle Histoire de France. En tout cas, pour cette deuxième partie, nous verrons le plan Marshall, nous verrons la naissance de la société de consommation, nous verrons un portrait de Pierre Mendès-France, une petite fiche de révision, deux livres à lire, très intéressant. Mais tout de suite, je me tourne vers vous, messieurs. Plan Marshall, 30 glorieuses et la naissance de cette société de consommation. Quoi peut-on en dire, Marc ?
Déjà, que les Américains étaient en embuscade.
C'est-à-dire ou au secours, ça dépendra des points de vue.
Non, mais enfin, dire par là, c'est qu'ils ne sont intervenus que dans l'optique, l'objectif, un jour, de pouvoir étendre leur marché. Mmh. Et c'est pour ça qu'ils ont été très, 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 très longs. Avant d'entrer dans la guerre, il a fallu de nombreuses impulsions et pressions avant que le président Roosevelt n'accepte de mettre en branle toute l'industrie américaine.
Ça, c'était avant, oui. Mais là, on est déjà sous Truman et Eisenhower, hein, dans l'époque dont on parle, monsieur. Oui.
C'est de rappeler quand même cela. Et là, les États-Unis, néanmoins, comment peuvent-elles sortir leur économie dans une sorte d'embourbement qui est lié aux dépenses phénoménales de la guerre? Et c'est là qu'ils inventent ce plan Marshall qui est l'étincelle permettant au commerce de se répandre et donc aux citoyens de devenir un consommateur. Mais je dirais presque un consommateur frénétique.
Il ne faut pas oublier que l'Europe a été dévastée par cette Seconde Guerre mondiale. La France, c'est évident, mais l'Allemagne encore plus, qui a été surbombardé, et l'ensemble des pays d'Europe qui sont en bien mauvaise posture. Donc si vous voulez que le principal pôle de développement de la planète continue à vous acheter vos produits manufacturés, parce que les États-Unis, eux, ont connu un boom extraordinaire depuis le début du XXe siècle, il vaut mieux leur prêter un peu d'argent si vous voulez qu'ils vous achètent vos voitures, vos télévisions et tout le reste. Donc c'est ce que va faire effectivement l'Amérique, mais il y a aussi une volonté de tenir face au bloc de l'Est. On veut renforcer les pays d'Europe occidentale contre l'Union soviétique qui, à l'époque, fait encore peur. Je me permets de vous rappeler que Staline ne meurt qu'en 1953 et que, avec Khrushchev, on continue à se méfier encore de l'Union soviétique. On commencera à se moquer de l'Union soviétique à l'époque brejnievienne, c'est-à-dire bien plus tard, à la fin des années 1960.
Oui, les années 60, c'est la grande guerre froide et qui passe par l'espace. Qui enverra le premier homme sur la Lune et premier homme dans l'espace? C'est en 1957, Gagarine.
Bon, on a beaucoup de sujets dans cette première partie.
Pour revenir donc à la France, ce pays est à reconstruire. Mm-hmm. Il lui faut des matériaux, il lui faut de la main-d'œuvre. Ça, de la main-d'œuvre, on en a. Tout le monde se retrousse les manches. On travaille quasiment 7 jours sur 7, il faut le dire. Les gens vont jusqu'à construire leur propre maison. Je pense à l'association des castors, par exemple, qui va se répandre sur l'ensemble du territoire. Il y a un courage, une volonté, un besoin. Et puis en plus, j'allais dire, on travaille, mais avec le plaisir de reconstruire le pays. Mais pour ça, il faut aussi de l'argent. Donc c'est le plan Marshall, il sert notamment à ça. Cette reconstruction, elle va avoir un effet extraordinaire. C'est un développement, une croissance complètement extraordinaire. Ce sont des années très, très favorables au commerce, à l'industrie, au négoce, au capitalisme d'une façon générale. Hein.
C'est juste un petit mot, c'est-à-dire qu'on était habitué à avoir l'argent sous le matelas, et là, eh bien, on découvre le crédit. Car tout cela n'est possible que grâce à l'endettement personnel de tout un chacun.
Et vous parliez de la société de consommation. Mais il y a trois facteurs pour cette société de consommation. D'abord, la publicité qui a été inventée dans les années 1920, qui s'est développée avant la guerre, mais qui là explose littéralement. Je vous défie aujourd'hui d'écouter les enregistrements qu'on a de programmes radiophoniques des années 50. Il y a une publicité toutes les 2 minutes. Aujourd'hui, on ne tolérerait plus ça. Mais à l'époque, on aime ça parce que ça prouve qu'il y a de nouveau du shampoing. Oui. On aime entendre parler de ces produits. Ça fait plaisir, vous voyez. Donc il y a la publicité, très important. Le deuxième facteur considérable, c'est un facteur de croissance industrielle, tout simplement. Donc on va produire. On produit dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Je ne reviendrai pas là-dedans. Et puis n'oublions pas un troisième facteur absolument essentiel dans cette embellie, si je puis dire, des années 1950, c'est, comme le disait Marc, l'invention du crédit. On va commencer, timidement au début, hein, très timidement, mais on va commencer à prêter aux gens de l'argent pour qu'ils vous achètent vos produits. Tout ça est diabolique, tout ça vient de l'autre côté de l'Amérique, mais on vit encore dans ce système, je vous fais remarquer.
C'est important, en tout cas, de planter. On a beaucoup de sujets, messieurs.
Hein. C'est technologiquement, il y a des choses qui se conjuguent. C'est l'invention...
Transistor.
Le transistor, mais la machine à laver. Tout ce qui va faciliter la vie de la ménagère. Et ça crée un enthousiasme phénoménal et l'illusion que l'homme ne sera plus en servitude de son propre foyer.
Alors, merci beaucoup d'avoir bien planté le décor. Je sens que vous avez encore beaucoup de choses à dire. Mais on doit quand même voir Pierre Mendès France dans un instant. Mais avant tout, l'indépendance de l'Indochine. Et ce qui est important, Franck, c'est de voir en quoi l'indépendance de l'Indochine a-t-elle marqué la France.
Mais c'est fondamental parce que si l'on devait résumer la décennie qui suit la Seconde Guerre mondiale en France, c'est d'abord et avant tout une décennie de décolonisation. On pourrait même dire deux décennies. L'indépendance des pays d'Afrique, c'est 1960. Hein. Ça va durer, disons, 15 années très difficiles. 1962, pour ce qui est des accords d'Évian et la fin de la guerre d'Algérie. Bon. Mm-hmm. Alors l'Indochine. L'Indochine était occupée par les Japonais, ce qui fait qu'elle est un des gros sujets de la conférence de Potsdam qui décide de l'avenir de l'ancien empire japonais, bien entendu. Ce qui veut dire, entre parenthèses, qu'on a les Américains au sud, en Cochinchine, dans le nord, au Tonkin, on a les Chinois de Chiang Kai-shek à l'époque, il ne faut pas l'oublier. Et puis assez vite, évidemment, la France va envoyer un corps expéditionnaire et pour que tout ça ait de l'allure, le général de Gaulle a une idée de génie, on peut dire. Il envoie carrément le héros français, le général Leclerc, celui de la deuxième DB de la Libération.
Bon. On a vu la dernière fois.
Voilà, Leclerc arrive donc en Indochine. Le haut commissaire Thierry d'Argentlieu a une idée bien à lui. Il sait que ça va se passer mal au nord, dans le Tonkin, mais plutôt bien dans les grandes possessions, les grands domaines coloniaux du sud, ce qu'on appelle la Cochinchine. Vous voyez ce que c'est que l'ancienne Indochine française, hein, c'est le Laos et le Cambodge, bien sûr, à l'intérieur, le long des frontières de la Thaïlande, et puis sur la partie de la mer de Chine, à l'extérieur, là-haut, le Tonkin, l'Annam, qui constitue le lien entre les deux, et la Cochinchine avec Saïgon. Au Tonkin, la capitale, c'est Hanoï, qui est en même temps la capitale de l'ensemble de l'Indochine française.
Tout ça deviendra le Vietnam.
Voilà, alors le Vietnam, ce sera Tonkin, Annam, Cochinchine, et puis le Laos et le Cambodge auront leurs propres indépendances, pour le meilleur et pour le pire. Tout ça serait une toute autre histoire. En tout cas, en Indochine, d'Argentlieu, après l'échec d'une conférence qu'appelle la conférence de Fontainebleau, j'entre pas dans les détails, se dit que ce serait bien d'avoir un État indépendant au sud pour protéger les grandes exploitations coloniales du sud de ce qu'on appelle la Cochinchine. Il y a deux événements là, fondamentaux. 1949, prise du pouvoir par les communistes en Chine, c'est Mao, c'est sa longue marche. Et ça veut dire que désormais, les indépendantistes, les nationalistes du Viet Minh vont être soutenus par la Chine. Puis deuxième grande évolution, 1950, début de la guerre de Corée. Ce qui veut dire que les Américains vont avoir tout intérêt à nous aider, nous Français. Voyez un peu déjà l'affrontement entre la Chine et les États-Unis. Intéressant ça de voir ça dès 1950. Le nouveau commissaire français n'est autre que le maréchal Delattre de Tassigny, qui est en même temps commandant en chef, qui va arriver à briser l'offensive Viet Minh. On a eu un premier désastre que tous les spécialistes d'histoire coloniale connaissent par cœur. On appelle ça Cao Bang, c'est l'effondrement de Cao Bang. Mais très vite, Delattre va briser l'offensive Viet Minh sur Hanoï et s'emparer de Hoa Binh, ce qui, aux yeux du gouvernement parisien, fait figure de début de reconquête, en quelque sorte. On se dit qu'on va reprendre l'Indochine française sans trop de problèmes, avec notamment l'offensive menée par le successeur du général Delattre, qui est le général Salan, dont on entendra parler bientôt pour de toute autre raison. Salan va arrêter également l'offensive à Nassam, on est là à la fin de 52. Son successeur, le général Navarre, va avoir une idée qu'il croit géniale. Il se dit, on va réunir l'ensemble des troupes françaises sur un haut plateau qui va nous servir en quelque sorte de tête de pont pour l'ensemble du domaine indochinois. Et on va pilonner les bases Viet Minh. Et le plateau en question, c'est en fait une cuvette sur un plateau. Et elle est entourée d'un véritable cirque de collines qui sont elles-mêmes creusées et dans lesquelles on peut installer des batteries d'artillerie. C'est bien sûr Dien Bien Phu. Dien Bien Phu commence donc en novembre 53. À Dien Bien Phu, le Viet Minh est très puissant. Pourquoi ? Parce qu'il a des porteurs, 75 000 porteurs qui vont transporter un matériel invraisemblable, qui vont transformer ce cirque montagneux autour de la cuvette de Dien Bien Phu, enfin montagneux, de colline.
Impénétrable, c'est un monde de rats.
Et qui ne peut être ravitaillé que par les avions, sauf qu'à un moment, il y a tellement d'artillerie du côté Viet Minh à Dien Bien Phu qu'on ne peut plus ravitailler la cuvette. Et les malheureux qui sont là, toute cette armée française concentrée à Dien Bien Phu, elle se retrouve prise dans une nasse, prise dans un piège. Plus personne pour faire le lien. On fait des parachutages comme on peut. Et effectivement, comme dit Marc, ça va être quelque chose d'effroyable. Le courage des gens de Dien Bien Phu était extraordinaire. L'habileté et le courage aussi, disons-le, du Viet Minh tout autour ne l'est pas moins. Finalement, il va falloir négocier parce que ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en juin 54, on a commencé une conférence à Genève en février 54, mais en juin, le gouvernement Laniel est tombé Laniel a été remplacé par un certain Pierre Mendès France. Et Pierre Mendès France, il n'a qu'une idée, qu'une obsession, c'est d'obtenir la paix qui sera donc signée à Genève le 21 juillet 1950.
Citons quand même le général Bijard.
Oui, Adiane Bienfou, bien sûr.
Adiane Bienfou, qui est celui...
Colonel à l'époque. Hein.
Voilà, colonel, et qui essaie de galvaniser ses hommes, qui est d'un héroïsme incroyable.
Et puis, puisque nous citons des combattants de Adiane Bienfou, citons la seule femme au milieu de tous ces hommes qui nous écoute peut-être aujourd'hui et que nous saluons très respectueusement, c'est Geneviève de Galard, bien entendu.
En tout cas, 21 juillet 1954, lors de la signature des accords de Genève, la fin de cette guerre d'Indochine. Et vous avez parlé de cet homme, Pierre Mendès France. On va s'arrêter sur son portrait tout de suite. Cette figure de la gauche française qui a marqué la 4e République.
Je dirais que c'est au-delà d'un homme de gauche. C'est un personnage attachant de par cette personnalité et surtout remarquable par son envergure intellectuelle. On est en Normandie, à Louviers, il se distingue très tôt sur les bancs de l'école et s'impose à ses camarades de façon flamboyante en obtenant son bac à 15 ans. Vous vous rendez compte ?
D'où votre titre, Le Précoce.
D'où le titre, Le Précoce. Mais ça ne s'arrête pas là. Il a une sensibilité d'attachement au peuple. Il voit que les conditions sont très pénibles dans ces années 30. Et donc il développe une sorte d'humanisme qui le pousse à guetter les discours des uns et des autres. Tant et si bien qu'un jour, il y a à la tribune du parti radical Édouard Herriot.
Édouard Herriot, maire de Lyon. Hein.
Maire de Lyon. Il est là, il se dit, mais c'est pas possible. Cet homme, effectivement, représente l'avenir d'une France sociale, d'une France humaniste. Il adhère au parti. Après avoir obtenu son diplôme d'avocat à 21 ans, le voilà à l'Assemblée députée de Louviers à 25 ans. À 25 ans. Et son premier discours, il est sur l'économie. Ce qui montre que, bien qu'utopiste, bien qu'humaniste, il essaie de voir comment les rouages économiques seraient compatibles avec l'aisance de tout à chacun. Et son discours est tellement sublime que Léon Blum le convoque, le félicite, et lorsque les événements de 36 le propulseront au pouvoir avec le Front populaire, eh bien il l'appelle comme sous-secrétaire d'État au Trésor. Tout irait bien entre les deux hommes. Sauf que Blum, plus stratège peut-être, ne veut pas soutenir le Parti républicain en Espagne, alors que Mendès, il est comme Malraux, il faut y aller, il faut se battre, il faut soutenir les camarades. Et de là, à la discorde entre les deux. En 1940, il est convoqué comme pilote dans l'aviation. Il fait son travail, je dirais, de soldat avec fierté, avec courage, mais comme les autres, il est emporté par la débâcle. Il se retrouvera prisonnier. Le procès qui lui est intenté, forcément, est inique. Forcément, il est condamné. Le voilà emprisonné. Mais il n'est pas question d'accepter la férule de ces Allemands et encore plus d'admettre que Pétain puisse ainsi régner en complicité avec l'ennemi. Il s'échappe, il filoche et on le retrouvera à Londres à côté du général de Gaulle.
Il fait partie de ceux qui n'ont pas voté.
Bien sûr, bien sûr.
Les pleins pouvoirs.
Les pleins pouvoirs à Pétain. Alors, donc à côté de Gaulle, les hommes se... Là encore... se respecteront intellectuellement. Et de Gaulle lui dressera aux finances dans le gouvernement provisoire et également dans son premier gouvernement où il est ministre des Finances. Est-ce qu'il y a une rivalité entre les solutions proposées par Mendès France et un autre qui s'appelle Pleven, et de Gaulle préfère épouser, je dirais, le plan de Pleven, ce qui fait que Mendès France sort de la politique, enfin sort du gouvernement et se mettent en attente des événements qui le convoqueront, tel que Franck l'a raconté tout à l'heure, et le voilà président du Conseil. Les mesures qu'il prend, forcément, sont des mesures humanitaires. Mais la première chose, c'est de s'intéresser aux agriculteurs. Il les connaît tellement bien, ces gens qu'il a côtoyés dans sa jeunesse. Et on a des problèmes avec la production de lait. Et c'est lui qui va rendre obligatoire, alors qu'en plus, les gamins les uns et les autres sont plus ou moins familiques, car les restrictions sont toujours plus ou moins en vigueur, il impose le lait le petit matin en pleine récréation pour que ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir prendre leur petit déjeuner disposent de quelques vitamines.
Est-ce qu'on a le droit de dire que vous ne buvez pas de lait, hein, je précise, mais je ferme très vite la parenthèse.
Eh bien, détrompez-vous, je fus sur les bancs de l'école, l'un de ces élèves qui pieusement tordait sa petite, vous savez, on avait une sorte de petite gamelle en ferraille et on l'attendait le matin pour avoir son verre de lait.
Pieusement, dites-vous.
Pieusement, effectivement, avec ma défense, c'est assez étonnant. On avait la blouse grise et puis c'était la discipline, la férule. Celui qui ne connaissait pas la leçon se retrouvait avec les coups de règle sur les doigts jusqu'à un moment où enfin il trouvait la bonne solution. Bref, c'est cet homme-là qui, malheureusement, est très rapidement combattu par les partis. Il est obligé...
Puis il y a le grand débat de la CED. Surtout.
Voilà, voilà. Et ce qui fait qu'il se retrouve emporté par les événements. Il sera jusqu'au bout l'adversaire du général de Gaulle et restera un mythe pour les gens de Gaulle.
De gauche.
Et sera un mythe pour eux. Et l'exemple pour François Mitterrand. Et c'est donc un personnage qui ne sera plus que dans les coulisses, mais une sorte d'élément moteur pour ceux qui espèrent un monde plus social que celui dressé par le général de Gaulle.
Il y avait trois qualificatifs à apporter à Pierre Mendès-France.
L'intégrité.
L'efficacité, c'était son obsession.
Voilà, l'intégrité. Et puis, cette capacité à l'empathie et une grande intelligence.
Merci beaucoup, en tout cas, pour ce portrait de Pierre Mendès-France. Un grand auteur, messieurs, a synthétisé ses années 50 dans un petit livre très agréable à lire, Les mythologies de Barthes.
Ah, c'est un personnage, Roland Barthes, qui est mort en 1980, qui avait commencé à publier dès la fin de la guerre et qui va effectivement s'amuser dans un certain nombre de revues, je n'entre pas dans tous les détails. Ensuite, on réunira tous ces textes dans ce recueil qui s'appelle Mythologie. Il s'amuse en bon sémiologue ou sémioticien. C'est lui qui invente ces termes sur l'étude des signes. Il cherche dans la société les signes qui permettent de la comprendre. Et parmi les grandes mythologies de ces années 50, alors il y a la plus célèbre, évidemment, c'est la déesse Citroën, vous savez, qui est la voiture de cette époque, la voiture totalement futuriste de l'époque. N'oubliez pas que c'est le début des matières plastiques également. Et il parle des matières plastiques, Roland Barthes. Il parle par ailleurs de toutes sortes de choses. Ça va du striptease au match de catch. Ça va de la publicité au guide bleu, en passant par les studios Harcourt, par les prêches de Billy Graham. Bref, toute une société très particulière que la puissante lame de fond, si je puis dire, des années 60, va, avec la culture de masse, va complètement emporter par la suite et on entrera dans toute autre chose. Mais ces années 50, elles nous restent un petit peu, elles nous restent, c'est ce que je disais pour commencer cette émission d'ailleurs, elles nous restent chères au cœur. Et c'est vrai que Roland Barthes analyse tout ça. Et alors il a un ennemi, Roland Barthes, c'est passionnant quand on lit ça, il se bat littéralement contre la bêtise au front bas de ce qu'il appelle la petite bourgeoisie. Et tout ce qui est pour lui petit bourgeois, c'est à détruire. Sauf que le problème, c'est que la France de l'époque est un peu la France des sketchs de Robert Lamoureux, la France des chansons d'Edith Piaf, etc. C'est largement une France petit bourgeoise. En
bon, fait. Oh, non, on a bientôt fini. Oui. Je sais que vous avez envie de raconter. Gardez vos petits pour la prochaine et dernière émission. Fiche de révision, messieurs, pour terminer. Parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Conçue dès 1943, les institutions de la Libération ont été portées par le général de Gaulle. Le retour au régime d'assemblée crée une instabilité politique, heureusement compensée par une croissance économique sans précédent. Et puis la guerre d'Indochine et les crises nées de la décolonisation vont avoir raison du fragile régime de 1946. Vos livres. Alors, bien sûr, les mythologies de Barthes.
Oui, vous avez tout simplement, parlé, je crois que c'est ça, il faut lire.
Effectivement, et puis qu'on voit ici à l'image, et puis pour vous, Pierre Mendès-France de Jean Lacouture.
Jean Lacouture, belle plume à chaque fois, des biographies complètement accomplies, avec.
Et il était proche de son sujet, là, en l'occurrence.
Voilà. Merci.
Avec l'enchantement de ce personnage à peine esquissé tout à l'heure.
Merci beaucoup, messieurs. La semaine prochaine, la dernière émission de toute cette épopée de la belle histoire de France, de la Gaule à De Gaulle. Et la prochaine émission, De Gaulle, le retour.